bienvenue à la rencontre avec Arleston, Christophe de son prénom, Scotch parfois même.
Non, plus du tout. Il y a des pseudonymes qu'on laisse tomber après 40 ans. Ça, c'était un pseudonyme de jeunesse. Je suis revenu à mon prénom, Christophe.
Maintenant, c'est whisky, c'est quoi ?
Non, justement, c'est que j'ai eu une jeunesse où j'ai bu beaucoup de whisky, d'où ce surnom à l'époque. C'est pas que j'étais collant comme garçon, hein, c'est que je n'aimais pas le vin, donc je buvais du whisky, et on m'avait surnommé comme ça. Depuis que je bois du vin, je préfère laisser tomber le scotch et revenir à Christophe.
Du vrai nom, de son vrai nom, Christophe...
De mon vrai nom, Pelinck.
Oui, voilà. Je le précise parce que finalement, il y a eu aussi un roman publié.
Ah, le roman, je l'ai publié sous le nom d'Arleston, ouais. Vu que c'est un roman de fantaisie marrante et que c'est le domaine de la fantaisie marrante dans laquelle... Le grand public me connaît le plus. Ce que j'ai publié sous mon vrai nom, c'est une série chez Glénat qui s'appelle Chimère 1887. Et je l'ai publié là. J'ai pas voulu le signer Arleston parce que c'est une histoire très différente, une histoire très dure d'une jeune fille de 13 ans qui se retrouve dans une maison close au 19e. Et il n'y a pas du tout d'humour. C'est pas du mélo non plus, mais c'est l'histoire de cette fille qui d'ailleurs n'est pas une victime, qui est une battante au contraire. C'était ça qui était intéressant dans le personnage. Et Jacques Glénat, évidemment, me disait « Bon, on signe Arleston ». Moi, je lui ai dit « Non, parce que j'ai pas envie que les gamins qui se marrent avec les trolls tombent sur cette histoire par hasard ». Et il m'a dit « Tu vas prendre un pseudonyme ?» Je lui ai répondu « Non, je vais faire mieux, je vais te donner mon vrai nom ». Voilà. Donc, évidemment, il était quand même déçu parce que le potentiel de vente n'était pas le même sous le nom de Pelinck qu'Arleston, mais il ne pouvait pas dire que j'avais pris un pseudonyme pour faire ça.
Alors, justement, enchaînons là-dessus. Au départ, vous avez fait des études de journalisme, travaillé dans la communication pendant un certain temps, puis ensuite, écrit des pièces radiophoniques, notamment pour France Inter, notamment Les Nouveaux Maîtres du Mystère, avant de passer à la BD. La plupart des fictions justement écrites en scénarisées pour la BD sont vraiment d'ordre très très fictionnel. Ce que je veux dire, c'est qu'on est principalement dans du récit de genre, fantasy, polar, science-fiction. Mm-hmm. Et pourtant, il y avait au départ un réel intérêt pour la communication et surtout pour en fait l'information. J'ai entendu dire que vous écoutiez les informations quotidiennement et même plusieurs fois par jour.
En me levant tout à l'heure, je ne dirais pas à quelle heure, mais il était fort tard. La première chose que j'ai fait, ça a été d'aller sur le site de France Inter et d'écouter le journal de 8 heures. J'ai besoin, et la dernière chose que j'ai fait hier soir avant de m'endormir, c'était d'écouter le journal de 19 heures. J'ai besoin d'infos tout le temps. Je fais partie des drogués de l'info. Mm-hmm. Depuis que France Info a une chaîne de télé, c'est formidable parce que les autres chaînes de télé en continu m'exaspéraient. France Info TV, j'y suis accro. J'ai ce rapport au réel en permanence. C'est-à-dire j'ai besoin d'être ancré dans le réel. Par contre, dès que je suis devant un écran, là, j'ai envie d'évasion et d'imaginaire. C'est assez paradoxal. J'ai envie de fuir notre monde et d'aller m'amuser ailleurs. Et d'ailleurs, pour mon parcours, je reprends juste un mot de ce que tu disais. Quand tu disais après le journalisme, après les dramatiques radio, je suis passé à la bande dessinée. Je ne suis pas passé à la bande dessinée, j'ai atteint la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, c'est ce que je voulais faire depuis que j'avais 12-13 ans. Tout le reste, c'était des études pour faire croire à mes parents que j'allais être un garçon sérieux dans la vie et qui, de préférence, essayaient de me rapprocher de la communication, de l'écriture, de domaines connexes. Mais la bande dessinée était l'objectif depuis le début. Simplement, quand j'étais plus jeune, je voulais être dessinateur. Évidemment, à 12-13 ans, on ne se dit pas « je veux être scénariste ». On se dit « je veux être dessinateur ». Et on commence à dessiner, à faire des pages. Et puis, un beau jour, on rencontre dans des festivals, on a 17-18 ans, d'autres jeunes dessinateurs. On s'aperçoit qu'ils sont 10 fois plus talentueux, qui n'ont strictement rien à raconter. Et que soi-même, on n'est pas bon parce qu'on va trop vite, parce qu'on en a trop à raconter, et on veut dessiner 8 pages par jour. Et là, les pièces du puzzle se mettent en place, et j'ai trouvé ma place très vite, là.
Alors, en 1992, il y a les maîtres cartographes avec...
Paul Claudel.
Voilà, au dessin. Léo Loden, qui commence la même année. Alors, Léo Loden, ça sera quand même... 24 albums, plus les hors-séries.
On est sur le 24e, oui, ouais, 24 ça. Ou 25e. D'ailleurs, où pour une fois, on s'amuse, c'est un petit polar qui se passe à Marseille, un polar humo. C'est finalement la seule série que je fais qui se passe dans le monde contemporain. C'est un polar humo dans la grande tradition de Spirou, des éditions Dupuis, de Gilles Jourdan, on prend grand plaisir à le faire avec Serge. Et puis là, pour l'album qui est en cours, on a décidé, comme ça, sans donner d'explication, sans dire quoi que ce soit au lecteur, que ça allait être Léo Laudanum, qui est questeur privé à Massilia. Et on retrouve tous les personnages secondaires, mais adaptés en version gallo-romaine. Et c'est pas un rêve, il n'y a pas de voyage dans le temps, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça, point. Une fois qu'on a plus de 20 albums dans une série, on peut se permettre de faire ce qu'on veut.
On va revenir sur Goscinny tout à l'heure, justement. Alors, une des caractéristiques de Léo Laudan, c'est que ça se passe à Marseille, et il fallait vraiment que ce soit inscrit dans l'histoire et la culture de cette ville. Est-ce que ça a été difficile ?
J'habite Aix-en-Provence, je ne suis pas très loin de Marseille. Donc, non, ça n'a pas été très dur. Je suis allé m'immerger. Mais ce qui est amusant, c'est qu'au départ, moi, je voulais faire ce polar à Paris et faire un petit peu les quartiers de Paris, aller au Malais. Et c'est Serge Carrère qui, lui, est toulousain et qui en était en train de discuter. Et il me dit, mais mon Carrère, pourquoi tu veux faire ça à Paris, t'as Marseille à côté, fais-le à Marseille. Et d'un coup, ça a été une évidence. J'ai fait oui, évidemment, il faut montrer Marseille. Alors là, j'ai repris ma casquette de journaliste. Je suis allé me balader beaucoup dans des quartiers que je ne connaissais pas. J'ai passé pas mal de temps dans le fond des bars à boire un café pendant 2 heures, mais surtout en tendant les oreilles, en mode bref de comptoir. Notons les brefs de comptoir. Et j'aimais déjà Marseille, mais j'ai découvert encore une autre facette de la ville.
Après 92, bon, on va passer à 94 directement, soyons fous, avec la sortie de Lancefeu, de Troy.
Trois.
Tu préfères Trois ?
Ah ouais. Oui. Lancefeu, parce que je cherchais un titre, c'est un copain qui est là, Nolan, qui m'avait expliqué quand j'étais jeune, je le connais depuis très très longtemps, quand j'étais un jeune auteur qui avait encore jamais publié, il me disait un bon titre, c'est Machin de trucs. Donc j'étais là, Lancefeu 2, 3, merde. Voilà, c'est tout. Et je me suis dit que ça allait être sympa au tome 4 quand les gens allaient demander Lancefeu 2, 3, 4. Mais comme beaucoup de choses dans Lancefeu, c'est très con.
Mais en plus, ça aurait pu être 8 parce qu'il y a 8 albums et ça, c'est le chiffre fétiche.
Non, il s'est trouvé.
Pour les séries,
que...
en fait, c'est
il
quelque
s'est
chose qui a l'air de fonctionner.
C'est pas un chiffre fétiche, c'est qu'en fait. Un album de bande dessinée de 44 pages contient, en termes d'informations, l'équivalent d'une nouvelle. Et si on veut avoir un récit un peu plus dense, un peu plus conséquent, l'équivalent d'un roman, il se trouve que ça fait 8 ou 9 albums. Ça tourne dans ces eaux-là. C'est 8 albums, généralement, ce qui permet d'avoir une structure solide, un arc narratif suffisamment complexe, en pouvant garder la place pour des scènes de comédie, parce que moi, dans mon travail, la comédie est très importante.
À partir du moment où il y a souvent des cycles de 8, la trame est totalement conçue, enfin pas dans le détail, mais en tout cas l'arc narratif général dont vous parliez.
Alors, je conçois mon arc narratif, je sais où je veux arriver. Ça, le point d'arrivée, je le connais. Je ne sais pas toujours par quel chemin je vais passer. Après, à chaque album, j'écris un synopsis de l'album et je projette un peu le suivant. Quand même, j'ai des points de rencontre comme ça d'album en album, et après quand je me mets à l'écriture, je ne respecte absolument plus tout ça, et en fait j'improvise les trois quarts du temps, mais j'ai besoin de savoir que j'ai ce synopsis derrière qui est un filet de secours. Si jamais à un moment donné je panique, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai ce filet du synopsis auquel je peux me raccrocher. Mais il se trouve que comme ce travail du synopsis, du récit a été fait une première fois, ça me permet d'aller plus loin et d'imaginer autre chose que la première chose qui m'est venue. Donc de surprendre.
Pareil pour finalement l'écriture à l'intérieur des albums. On peut avoir le sentiment qu'il y a en fait des séquences, je peux dire différentes, mais avec disons quelque chose d'un par épisode à l'intérieur de chaque album, c'est-à-dire un aspect un peu feuilletoniste?
Ah, je me revendique complètement dans la lignée des feuilletonistes du 19e, d'où cette part d'improvisation, justement, qui peut parfois amener à des petits déséquilibres de structure, mais j'attache pas tellement d'importance à ces déséquilibres de structure, d'une part parce que dans le type de récit que je fais, c'est vraiment de l'épique et de l'épique avec beaucoup d'humour. Et l'important, c'est que chaque scène embarque le lecteur, qu'on fonctionne avec chaque scène, qu'on se marre, qu'on vibre, qu'on ait peur dans chaque scène. Et si des fois on perd un poil de vue l'objectif, ou si des fois il y a une légère approximation dans le scénario, d'ailleurs les lecteurs en plus sont ravis de me le faire remarquer souvent, et je leur réponds toujours en leur donnant des tas d'explications avec une mauvaise foi la plus totale, mais je privilégie le plaisir de la scène, de la lecture du moment à une horlogerie impeccable.
L'autre jour, on était en train de parler ensemble du scénario d'Ernst Lehmann pour la mort aux trousses, mm-hmm. qui alors là, par contre, est évidemment organisé complètement différemment. C'est une mécanique, une pièce de l'horlogerie avec tous les rouages qui fonctionnent impeccablement.
Et pourtant, si on prend tous les gens qui connaissent La mort aux trousses, ce film d'Hitchcock, dans la salle, et qu'on leur demande quelle est exactement l'intrigue qui est derrière, les trois quarts des gens ne s'en souviennent plus. On s'en fout de l'intrigue. On se souvient juste que Cary Grant est poursuivi parce qu'il est pris pour un autre et que, en fait, l'autre en question est un agent secret qui a été inventé par des services secrets. Mais que voulait le méchant? Que voulait James Mason? Pourquoi? Comment? À quel moment? Tout ça, finalement, un quart d'heure après avoir vu le film, on l'a déjà oublié, même si la mécanique et l'horlogerie fonctionnent.
MacGuffin.
Le MacGuffin, la course après quelque chose.
Alors, avec le succès de 3, il y a, à partir de 2...
J'étais jeune sur cette photo, c'est génial. Je ne l'avais pas revu depuis des années.
Il y a, à partir de 2001, la deuxième série, cette fois-ci dans Les Étoiles. Là encore, 8 albums.
Oui, pour moi, ce n'est pas une série différente. La série, c'est L'Enfeust. L'Enfeust est une seule série. D'ailleurs, en quatrième de couverture des albums, j'ai fait mettre saison 1, L'Enfeust de 3, saison 2, L'Enfeust des Étoiles, saison 3, L'Enfeust Odyssée, parce que des gens, des lecteurs me disaient « mais je ne comprends pas comment ça marche, c'est quoi L'Enfeust par rapport à ceci, cela ?» Non, non, c'est la même seule histoire, avec une continuité temporelle. Et L'Enfeust des Étoiles est venu tout naturellement. C'était au départ la fin de L'Enfeust de 3. J'avais prévu que à la fin de mon 8e album, il embarquait dans un vaisseau, il partait pour les étoiles. Finalement, la fin de mon 8e album, je l'ai laissé sur 3 parce que j'avais besoin de poser un final, et puis je commençais à plus avoir de place. On était à la page 50 et quelques alors qu'on aurait dû faire ça en 44. Et je dépasse souvent, vous remarquerez que mes albums ne sont pas toujours dans la stricte pagination du 44 pages traditionnel. J'impose souvent à mon éditeur de rajouter un petit cahier supplémentaire. Alors on va faire 48 pages, 52 pages, 56 pages. Et les éditeurs détestent ça parce que ça leur coûte de l'argent. Ils sont obligés de vendre l'album au même prix. Mais heureusement, quand on fait un succès, on lui dit « t'as pas le choix, hein, moi j'ai envie que ça soit comme ça ». Alors voilà, et l'éditeur il fait « bon, d'accord ». Et j'avais pas pu faire ce départ dans les étoiles. Et puis, entre-temps, donc, je comptais raconter l'histoire de l'Enfeust dans les étoiles dans le deuxième cycle. Finalement, je commence le deuxième cycle, on est encore sur 3, puis on part dans les étoiles. Et l'Enfeust Odyssée, le troisième cycle, la troisième série, troisième saison, c'est un peu la synthèse des deux premières. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur 3, mais on retrouve des éléments de l'Enfeust des étoiles. Puisque dans L'Enfeust des Étoiles, on entend parler d'une grande guerre qui a déplacé des populations de monde en monde, de planète en planète, et le monde de Troie qui était vierge de toute intervention extérieure, ce qui lui donnait son côté purement fantasy, sans technologie, se retrouve quand même pollué, entre guillemets, par des éléments technologiques et des gens venus de l'extérieur.
Oui, alors c'est justement là, c'est sur ça que je voulais rebondir, c'est que tout à coup, on se retrouve avec de la planète fantasy, enfin, si on peut l'appeler comme ça, mm-hmm. et il y a un mélange de genres qui s'opère, et qui n'est pas forcément le mélange de genres très classique, même si on l'a déjà vu, par exemple, chez Zelazny au niveau roman. C'est-à-dire l'irruption de la science-fiction dans la magie est même totalement justifiée par l'argument. Est-ce que ça a été difficile, ça ?
Ah non, pas du tout, parce que dès le départ, je savais où j'étais, je connaissais mon monde. Et pour moi, on était sur une planète dont j'avais d'ailleurs dessiné la carte tout de suite. J'aime beaucoup avoir des repères visuels. J'avais une grand-mère prof d'histoire géo qui m'a élevé, et ça marque. Et on fait des frises historiques et on fait des cartes quand on commence un truc, quand on a une grand-mère prof d'histoire géo. Et donc je connaissais ce monde-là. Pour moi, le fonctionnement de la magie, c'était pas de la magie. J'étais plus dans le déjà d'entrer dans des pouvoirs parapsychiques. Tu vois, dans cette logique-là. Et pour moi, le passage à ce que tu appelles la science-fiction, c'est juste un zoom arrière. Là, on était sur cette planète. Hop, zoom arrière. Maintenant, regardons l'ensemble de l'univers, comment il fonctionne. Et d'un coup, ça n'est plus de la magie. Ce sont des pouvoirs surnaturels, mais pseudo-explicables scientifiquement. Et faut vraiment prendre la science et beaucoup, beaucoup l'élargir. Mais ça peut rentrer dans du vaguement cohérent. Et là, on passe à la SF, pour moi, d'une façon naturelle. Mais j'aime beaucoup le mot planète fantasy, de toute façon. J'aime beaucoup définir mon travail comme de la planète fantasy.
Alors, justement, ça tombe bien, l'aspect magique. En fait, il y a quelque chose qui est assez surprenant dans tout le cycle de Troyes, c'est le fait qu'il y ait une sorte de rationalisation de la magie, c'est-à-dire un mode de fonctionnement. Il y a une sorte de justification, par exemple, le fait que on doive être près des sages, ou ce soit tel ou tel élément qui soit, par exemple, le poignet d'épée, qui permette. Il y a en fait un mode de fonctionnement, une mécanique
interne.
C'est très
important. Ouais. C'est très important pour moi parce que je ne voulais pas... Alors d'abord, quand j'ai commencé à écrire L'Enfeust, je n'avais pas du tout une grande culture de la fantasy. Je connaissais quelques auteurs américains qui avaient écrit justement plutôt du planète fantasy, comme Jack Vance. Mais je n'avais jamais lu Moorcock, Elric, je suis désolé, ça me tombait des mains. Le Seigneur des Anneaux, je ne l'avais jamais lu. Je n'avais pas toute cette culture de fantasy classique, les elfes, les gobelins, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai inventé ma fantasy. Et il me semblait important qu'il y ait des règles du jeu. Je ne voulais pas de magiciens surpuissants qui balancent des boules de feu. C'est pour ça que dans mes toutes premières séries, j'avais fait deux séries de fantasy avant qui s'appelaient Les Maîtres Cartographes et Les Feux d'Askel, dans lesquelles il n'y avait pas de magie du tout. Parce que pour moi, cette image du magicien surpuissant, c'était inintéressant. Et le jour où j'ai eu l'idée pour le monde de Troyes de faire que chacun ait un pouvoir magique et un seul, et de donner des règles du jeu, là, je me suis dit, ouais, cette fois, on va aborder la magie parce que ça devient intéressant. Mais dès qu'il est question de magie, il faut des règles strictes, il faut des limitations. Parce que si tu n'as pas de limitation, le personnage prend un pouvoir énorme et à partir du moment où il peut tout résoudre d'un claquement de doigts, il n'y a plus d'histoire. On ne peut pas faire Superman s'il n'y a pas la kryptonite. On peut pas, il faut à chaque fois qu'il y ait l'antagoniste, qu'il y ait le moyen de dégoupiller une situation pour que le personnage soit en danger. Alors l'enfeust, en théorie, peut obtenir le pouvoir absolu, mais je me débrouille pour qu'il l'ait quasiment jamais. Puisqu'il faut qu'il soit en contact avec ce pommeau d'épée, morceau d'ivoire de Magohamoth, ou en contact avec le Magohamoth. Dans les cycles suivants, j'ai d'autres moyens de les mettre en contact, mais à ce moment-là, il ne doit pas l'utiliser parce qu'il met le Magohamoth en danger, le Magohamoth qui est la source de la magie, en danger. Donc à chaque fois, je mets des limitations, c'est très important. Sinon, tout simplement, on ne peut pas raconter grand-chose.
Oui, il y avait Brian Aldiss qui avait une remarque comme ça, un peu critique vis-à-vis de la fantasy. Où il disait que le problème, c'est qu'on pouvait tout faire et que donc construire une dramaturgie devenait plus difficile. Bon.
Oui, il faut poser des règles du jeu pour pas. J'avais un copain qui lui disait Heroic Fantasy, Fantasy la syntaxe, Heroic le lecteur. Mais bon.
Alors,
bon, heureusement, ce stade l'a dépassé, je crois.
Tout à l'heure, vous parliez des Feux d'Askel, justement. C'est une des séries qui a été abandonnée en cours de route. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors là, il s'est passé quelque chose de très simple, parce que beaucoup de gens nous reparlent des Feux d'Askel, une série qu'on faisait avec Jean-Louis Mourier en 91, 92, 93. C'était une très belle série en peinture directe. Il peignait chaque case. C'était un très beau truc, mais ça ne marchait pas du tout à l'époque. Et d'une façon très prosaïque, Jean-Louis Mourier travaillait 15 heures par jour, week-end compris, était en interdit bancaire dans un petit studio où il mangeait des pâtes. Et puis, quand je lui ai dit, écoute, on va faire un album des trolls en noir et blanc, enfin, tu n'auras pas à faire la couleur toi-même, connaissant le talent et la rapidité de Jean-Louis, je lui ai dit, en 3-4 mois, c'est plié. Et puis, on reprend les feux d'Askel après. Il se trouve que les trolls ont connu un succès immédiat, que Jean-Louis a pu récupérer sa carte bleue, manger autre chose que des pâtes, déménager. Et après, tout le monde lui a dit, ah, mais pourquoi vous n'avez pas continué les feux d'Askel ? Eh bien, parce que vous ne l'aviez pas acheté à l'époque. Alors, les feux d'Askel se sont très bien vendus après. On en a vendu plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires après qu'on ait arrêté. Mais à l'époque où on le faisait, on n'en vendait pas. Voilà, mais aussi prosaïque. Alors, par contre, il y a toujours le projet de reprendre et de terminer cette série.
Voilà, c'est ça.
Mais à chaque fois, il se passe un événement qui nous empêche. Il y a une sorte de malédiction. Je ne vais pas raconter le détail sur 15 ans. Mais une malédiction qui nous empêche de reprendre les feux d'Askel à chaque fois, sachant que le rendez-vous annuel du troll est prioritaire avec nos lecteurs.
Et la saga des fils de Tulé ?
Je ne vois pas de quoi vous parler, monsieur.
Alors, sinon, il y a un point également qui m'a toujours amusé. C'est on parlait de cartes tout à l'heure. C'est le fait que le monde a été complètement conçu dès le départ et que tu es en fait une carte gigantesque dans le bureau, c'est ça ?
Oui. Oui, j'ai ma carte du monde de Troyes sur laquelle il y a énormément d'éléments, de localités. D'ailleurs, certains des lecteurs ont pu la voir parce qu'elle a été éditée, elle a été offerte, elle est disponible. Et cette carte contient pour moi des tas d'histoires à venir déjà. C'est-à-dire qu'en regardant la carte, je visualise des tas d'histoires possibles parce que la géographie en elle-même peut induire des histoires, peut induire un conflit entre tel endroit et tel endroit. Et à travers la carte, quand je cherche une intrigue, très souvent, je me plonge dans la carte, je la regarde. Et c'est une manière pour moi de rentrer dans le monde de Troyes, de m'y immerger, de me projeter. J'ai même d'ailleurs commencé à voir avec un copain pour la numériser, essayer de faire un Google Street, avoir une appli pour avoir un Google Street de ma carte et pouvoir placer mon petit bonhomme et y rentrer dans certains lieux. Et c'est vraiment une aide à la concentration pour entrer complètement dans le monde. Parce qu'à partir du moment où il y a une carte, un lieu existe. Il faut le savoir.
Et puis ça permet d'asseoir la logique.
Voilà.
Il y a quand même 170 ouvrages à peu près, je n'ai pas réussi à faire le décompte exact, parus à ce jour, et avec évidemment un certain nombre de dessinateurs. Comment s'organise la collaboration avec obligatoirement des gens différents ?
Ben, ça se passe de manière différente suivant les personnalités de chaque dessinateur. Bon, de toute façon, à la base, moi, je fournis un scénario très détaillé, puisque c'est un scénario, comme on les écrivait dans le cinéma dans les années 50, en deux colonnes. Je sais qu'on ne fait plus comme ça dans le cinéma, mais moi, je continue. Avec dans la colonne de gauche, image par image, la description de l'image, plan large de la salle, les lumières sont baissées, on est en intérieur jour, je décris tout le détail. Et dans la colonne de droite, les commentaires et les dialogues, ce qui va aller dans les bulles. Et chaque image est vraiment décrite, image 2, gros plan, voilà. Et je fais un petit découpage dans lequel j'indique la taille des cases dans la page, puisque évidemment, pour le plan large de la salle et pour le gros plan, on ne va pas avoir la même surface qui va être utilisée. Alors, ce découpage est à titre indicatif. Si le dessinateur a une meilleure idée de découpage, il peut toujours la suggérer, je suis preneur. Par contre, ce qui lui est interdit, c'est de commencer à déplacer une case d'une page sur une autre, puisque la fin de chaque page est toujours calculée pour avoir une très petite accroche qui donne envie de tourner la page et qui donne envie de continuer le mouvement. Donc après, c'est ma base. Je vais être plus ou moins explicatif en fonction du dessinateur. Il est évident qu'avec Didier Tarquin, avec qui on a fait plus de 20 albums, ou avec Jean-Louis Mourier, avec qui on a fait plus de 20 albums, on se connaît par cœur et j'ai pas besoin de donner énormément de descriptions pour savoir exactement ce qu'ils vont faire, et je sais surtout quels sont les quatre mots qui vont générer telle image dans leur tête. J'ai pas besoin d'en mettre une plâtrée. Quand il s'agit d'un tome 1 avec un nouveau dessinateur que je connais pas, là par contre j'en écris des tartines pour être sûr pour lui donner de la matière et aider son imaginaire. Mais par contre, après, je vois toujours la page au stade du rough ou du crayonné, du storyboard. Il arrive qu'on refasse des petits ajustements à ce moment-là. Puis le dessinateur passe à l'ancrage. Alors, je demande toujours à mes dessinateurs de dessiner toute la planche sans les bulles. Ils ne font pas les bulles. C'est-à-dire, quand vous prenez un album, un de mes albums, si vous enlevez la bulle, il y a du dessin dessous. Tout ça parce que jusqu'au dernier moment, je me garde la possibilité de retravailler le texte, donc d'enlever une bulle, d'en rajouter une. Donc il faut que le dessin soit complet en dessous, évidemment, on le comprend bien. Et parce que c'est pour moi une manière d'être sur le montage final. Il se peut que j'ai écrit un dialogue et qu'en lisant la page, finalement, le dessinateur a rendu les choses de telle manière que ce dialogue devient complètement inutile, superfétatoire, et on peut l'enlever, il est en trop. Il se peut aussi que dans telle scène, j'ai décrit une action qui n'est pas finalement suffisamment lisible, telle que l'a montré le dessinateur, donc je vais rajouter un petit commentaire pour préciser l'action. Donc je veux garder cette liberté jusqu'à la dernière seconde.
Je vois. Donc utilisation de calque
qui permet de tout préserver. De calque sur Photoshop.
Oui, voilà, c'est ça, oui, j'entendais bien. Alors, il y a aussi, à partir de 2009, la saison 3 qui arrive, donc Odyssée. Celle-là, il y avait une volonté de la voir un peu différemment, en termes de formatage, j'entends.
Oui, à l'origine, on s'était dit que, voilà, on avait fait deux cycles de 8 albums, que c'était long, parce que ça représente 8 ans, mine de rien, même si pour le lecteur, ça représente une après-midi. Et on s'était... On était parti dans une espèce de logique où on se disait oui, aujourd'hui, quand on regarde une série télé, très souvent, on attend d'avoir la série complète pour regarder toute la série en quelques jours. On n'a plus l'attente du feuilletonnant et on va faire des cycles plus courts, des cycles de 2 albums. Et donc, on a fait les 2 premiers L'Enfeust Odyssée comme étant une histoire qu'on voulait fermer. Et je me suis rendu compte assez rapidement que, en fait, j'étais en train de commettre une erreur. C'est pas les 2 meilleurs albums que j'ai écrits, parce qu'ils sont pas mauvais non plus quand même, hein. Mais ils collaient moins à l'esprit L'Enfeust. C'est quelque part, on perdait un peu L'Enfeust, et je crois que L'Enfeust est indissociable de la saga. Et on s'est dit qu'on allait rectifier le tir, que ces 2 albums allaient finalement s'intégrer dans un cycle plus long, qui du coup va faire 10 albums, puisque moi j'ai besoin de mon espace de 8 pour toujours développer, et que ces deux-là vont être intégrés, on va les retrouver à la fin, il y aura un lien. Mais j'ai durci le personnage de L'Enfeust, je lui ai fait vivre quelques épreuves qui même le marquent physiquement. Aujourd'hui, L'Enfeust n'a plus cette tête de gamin de 18 ans qu'il avait, enfin même de 16 ans qu'il avait au tout début. Il est plus marqué, il est plus... Il a un passé, il a vécu des choses dures et ça se voit sur son visage, même si la série reste avant tout une série de comédie. Ça m'a permis de donner un peu plus de profondeur au personnage. Quelque part, la série L'Enfeust Odyssée commence au tome 3.
De plus, il y a eu des modifications de pagination, du coup.
La pagination que...
Nombre de planches.
Ah oui, mais ça, on a, comme je disais tout à l'heure, le nombre de planches...
Oui, c'est fluctuant de toute manière.
C'est fluctuant de tome en tome, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'histoire qui prime. Et on ne va pas commencer à déterminer une pagination au détriment de l'histoire. Et s'il y a besoin de 3 pages de plus pour que l'histoire soit bonne, on va faire comme ça. Je ne veux pas refaire ce que faisait Maurice Tilleux dans Félix dans les années 50, où on avait pendant 10 pages, c'était des histoires courtes, mais pendant 10 pages, on voyait les personnages, et puis les 2 dernières pages, on voyait que des petites têtes avec d'énormes pavés de texte où ils expliquaient tout ce qui s'était passé. Non, ça, on ne peut plus s'amuser à faire ça aujourd'hui, donc il vaut mieux dépasser, faire quelques pages de plus.
Concernant les influences littéraires, il y a Jack Vance, notamment.
Oui, il y a Vance du côté de la fantasy et de la science-fiction. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Il y a Vance, il y a Farmer, il y a Silverberg, il y a Fritz Leiber, que j'aime beaucoup. Il y a un paquet d'écrivains de science-fiction. Vance m'a beaucoup marqué par la richesse de son imaginaire et ses psychologies de personnages assez tordues, généralement, qui m'ont toujours fasciné parce que je dois le dire, moi je ne pense pas être quelqu'un de très tordu, donc je suis vite fasciné par ces psychologies assez complexes et assez des personnages un peu sournois, un peu... Et Jack Vance m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué pendant longtemps. Mais de la même manière, j'ai pu être marqué aussi par le cinéma d'Audiard d'un autre côté, par les grands classiques hollywoodiens. Je crois qu'on est vraiment un mélange de toutes les influences. Mais ce qui est certain, c'est que tout ce qu'on a lu et tout ce qu'on a vu entre 8 ans et 16 ans s'imprime d'une manière différente de tout ce qu'on peut lire et voir ensuite. Ça forge quand même des bases. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a lu et vu à ce moment-là et dont on a gardé le souvenir, on le trouve formidable. Et même quand on le revoit et que c'est mauvais, objectivement, on le revoit quand même avec plaisir et nostalgie. Alors que quand on revoit un mauvais film qu'on a vu à 25 ans, ben on se dit non, il était juste mauvais.
Et Goscinny ?
Goscinny, bien sûr, aussi. Goscinny, moi je suis un enfant d'Astérix aussi, l'humour de Goscinny m'a toujours beaucoup plu. Alors des fois on m'a fait l'honneur de comparer mon humour à celui de Goscinny.
C'était un peu l'idée, oui.
Mais ce qui n'est pas exact, parce que je ne suis pas tout à fait dans les mêmes logiques. Et puis je pense que s'il avait été vivant et qu'il ait lu ce que je fais, il dirait mais quelle horreur, c'est des horreurs. Goscinny était quelqu'un toujours de très poli, de très lisse sur son humour. Et moi, je suis des fois un peu gore, assez piquant, assez mordant. Et j'en ai discuté avec Albert Uderzo, que j'ai la chance de connaître, et bon, qui me dit « Ouais, moi, les trolls, ça me fait marrer, mais jamais on n'aurait osé faire un truc pareil. »
Ceci dit, bon, les jeux de mots sur les noms des personnages,
les calembours. Bon, mais Goscinny n'est pas l'inventeur du calembour non plus, il a beaucoup joué là-dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup...
Il y a une filiation.
Oui, il y a une filiation. Mais comme je te disais, il y a autant de Goscinny que de Audiard dans mes papas.
Alors, ceci dit, il y a effectivement des bandes scénarisées qui n'ont pas d'humour, clairement. Mais oui. De façon générale, tout de même, vous êtes reconnu comme un scénariste principalement humoristique.
Oui.
La question peut paraître un peu bizarre, mais c'est volontaire. On force un peu un naturel ou ça vient tellement naturellement qu'on ne pourrait pas faire autrement.
C'est un petit peu plutôt la dernière solution. C'est que j'ai... alors après, on ne va pas attaquer une psychanalyse là maintenant, plus il y a des gens qui nous regardent. Mais comme beaucoup de gens qui sont finalement fondamentalement assez pudiques et assez timides, j'ai commencé à me soigner, maintenant ça va, j'ai un âge où j'arrive à m'exprimer, mais j'ai pas eu une adolescence extrêmement communicante, hein. Et l'humour devient un paravent naturel qui s'installe à l'adolescence très vite comme, je dirais pas une défense, mais une politesse, une manière de mettre une petite distance quand même surtout. Donc après, le pli de l'humour est pris et j'ai beaucoup de mal à raconter des histoires sans humour. Alors là, j'ai fait un album Sangre qui est une histoire de vengeance pour la première fois où là, il y a très très peu d'humour parce que ça s'y prêtait pas. Dans l'histoire chez Glénat, Chimère dont je parlais, je m'appuie sur une co-scénariste, je ne suis pas seul. Je travaille avec une jeune fille qui s'appelle Mélanine et c'est elle qui amène tout le côté drama. On ne veut pas que ce soit du mélo non plus, mais donc là-dedans, je réfrène l'humour. Et sur une autre série de fantasy assez sérieuse qui s'appelle Les Forêts d'Opale, j'ai eu tellement de mal à écrire une série de fantasy sérieuse, mais le dessinateur a un trait très très réaliste et lui-même ne voulait pas qu'on fasse d'humour, mais il voulait vraiment qu'on raconte cette histoire, qui fait que j'ai eu des blocages où je n'arrivais pas à écrire. Parce que c'était pas, il n'y avait pas d'humour. Donc à un moment donné, j'en suis arrivé à cette extrémité d'écrire tout mon scénario tel qu'il me venait et ensuite d'enlever les gags pour qu'il reste juste l'intrigue sèche.
C'est l'anti-gagman.
Voilà.
Alors, il y a un autre point aussi. C'est vrai que le gag, c'est toujours un clin d'œil avec le lecteur. Et généralement, de toute façon, on pense au lecteur et on se dit, chouette, il va peut-être... il va réagir. J'espère qu'il va réagir de la manière dont j'espère.
Alors, je ne pense pas du tout au lecteur.
Non, pas du
tout. Je pense à un lecteur qui est le dessinateur. Et en fait, quand je suis en train d'écrire, mon lecteur, c'est le dessinateur. Je ne pense pas aux autres lecteurs qui viendront ensuite. Je veux déjà essayer de faire marrer le dessinateur en lui-même. Et d'ailleurs, il m'arrive, il y a des trucs assez marrants, il m'arrive de mettre des gags dans les marges, mais là, qui ne sont pas destinés à être dans le bouquin, des gags ou des petites conneries dans le scénario. Et parfois, ça se retrouve dans le bouquin, Je me souviens d'une fois, on était sur les débuts de l'Enfeuse de Troie, donc je ne savais pas trop jusqu'où je pouvais aller dans l'humour ou pas. Et il y a une scène dont beaucoup de lecteurs m'ont reparlé parce qu'ils l'adorent, qui en fait ne devait pas du tout être dans le livre, à un moment donné où Ébus est sur un rempart et il fait pipi par-dessus le rempart et on s'aperçoit que son urine est acide et les gens reçoivent ça comme si c'était de l'acide chlorhydrique et tombent comme des mouches en disant « Ah, bon !» Et ça, c'était juste une connerie que j'avais mis pour faire rire Didier. Didier a dit « Mais écoute, on le fait, on y va, pourquoi on le ferait pas ?» Et donc, voilà, il y a comme ça... De toute façon, toujours un jeu avec le dessinateur. Et pour moi, si je fais rire le dessinateur, si j'embarque le dessinateur, il va bien représenter la scène, il va bien dessiner. Je ne veux pas que le dessinateur soit un exécutant neutre. Il faut qu'il soit partie prenante. Il a, le dessinateur dans la bande dessinée, cette énorme responsabilité de faire bien jouer les acteurs. C'est le plus important pour un dessinateur. C'est pas que les proportions soient justes, c'est pas que les perspectives soient respectées. C'est... d'une part, que la composition de la page, la narration fonctionne et amène l'œil d'un bout à l'autre de la page avec le bon cadrage pile poil et surtout le jeu des acteurs. Beaucoup de jeunes dessinateurs, par exemple, ont le défaut de faire surjouer les personnages. Un personnage qui est surpris, normalement, il fait pas. Voilà. Et on voit ça dans certains cas, des personnages qui surjouent et ça peut être très bien dessiné, mais ça met en l'air toute une histoire.
Il y a aussi à côté tout ce qui est jeu pour le lecteur, à savoir retrouver des messages ou autre.
Oui, alors là, dans l'Enfeuste, on a pris cette habitude qui vient de Didier d'ailleurs. Hein. C'est Didier Tarquin qui avait fait un premier petit truc et puis là, tout de suite, j'ai enchaîné. Parce qu'on est très fort au ping-pong tous les deux. Dès qu'il y en a un qui lance la balle, pong, 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 et on monte très vite. Et c'est devenu une habitude d'avoir des petits jeux cachés avec des petits messages, avec... Des petits trucs à rechercher. On a même fait des concours, on fait gagner des choses aux lecteurs. C'est une manière aussi de rajouter encore un degré de lecture dans l'album.
Mmh. Oui, ce qui
Mais
fait
l'important dans les divers degrés de lecture, c'est qu'aucun ne gêne le degré le plus simple. Y a beaucoup de gags, par exemple, que les enfants ne peuvent pas voir. Mais ça ne doit pas les empêcher de lire l'album. Il ne faut pas que le môme s'arrête sur une case en se disant... Merde, là il se passe un truc, mais je suis extérieur à ça, je suis en train de rater quelque chose. Non, il doit lui adhérer parfaitement à l'histoire au premier degré, et l'adulte qui passe derrière doit lui voir le gag qui est en plus. Même chose pour les petits jeux, ils sont cachés, mais ils ne gênent pas la lisibilité.
Il y a eu de l'adaptation en animation. Comment ça s'est passé exactement ?
Très mal. Non, il y a eu deux adaptations, l'une des trolls, l'autre de l'Enfeuste. Je vais en parler très rapidement, parce que ce n'est pas des produits très intéressants à l'arrivée. Pour l'Enfeuste, on a quand même pris la précaution de créer la série parallèle L'Enfeuste Quest, c'est-à-dire déjà de passer nous-mêmes l'Enfeuste en manga dans le but d'en faire de l'animation, pour ne pas abîmer le vrai L'Enfeuste. Et là, on a eu une très belle animation, un très bon réalisateur, Antoine Charréron, une très belle musique et une chaîne qui a demandé à ce que tous les scénarios soient écrits pour les 4-6 ans. Donc voilà, ils avaient acheté les droits d'une BD ado-adulte pour en faire du 4-6 ans. Donc évidemment, c'est devenu complètement émasculé, un robinet d'eau tiède, niaiseux. Donc c'était très décevant parce qu'à l'image, c'était plutôt très bien fait, L'Enfeuste Quest. Et de l'autre côté, donc ça c'était sur M6 avec Gaumont, et de l'autre côté, Canal et la boîte de prod Futuricon achètent les trolls en nous prévenant, on va faire un graphisme cheap, ça va être du 2D numérique. Bon, on s'était dit pourquoi pas, hein, South Park ou les Simpsons, c'est du graphisme cheap et ça donne pourtant des très bons résultats. Là, ils m'ont laissé avoir un contrôle sur le scénario. Tout s'est très bien passé, il y avait des tas de scénarios très drôles qui étaient écrits. Et manque de bol, on est tombé sur un très mauvais réalisateur qui, lui, n'avait pas le sens du tempo et a fait tomber tous les gags à plat. Tous les gags qui étaient bien écrits sont tombés à plat. Donc la même année, j'ai eu pour deux raisons différentes, deux séries adaptées et les deux ont été très mauvaises. Qu'on ne parle pas de l'audiovisuel, le papier, c'est formidable. On est deux, il y a le dessinateur, il y a le scénariste. Parfois, l'éditeur veut dire un mot, mais on lui dit ta gueule. Et on est tranquille. Il n'y a pas de tour de table avec 12 personnes dont chacun dit « Oui, mais le spectateur de ceci, le spectateur cela, et puis sinon on va recevoir des plaintes d'associations catholiques, et puis sinon ceci, et puis ça. » L'audiovisuel, non, merci.
Et la BD numérique, ça pourrait se faire ?
Oh, la BD numérique, ça fait des années qu'on en parle. Alors déjà, le format franco-belge, disons traditionnel, celui dans lequel je travaille, ce format d'album, se prête pas aux tablettes. Il faudrait redécouper. C'est un gros travail. Je ne sais pas si ça en vaut la peine. Le comics ou le manga, eux, passent directement en numérique. Nous, c'est plus difficile. En attendant, ce que je peux dire sans trahir un secret, c'est que les ventes de bandes dessinées en numérique sont ridicules pour tout le monde. Pour l'exemple de L'Enfeust, à L'Enfeust à sa sortie, c'est des centaines de milliers d'exemplaires. Les ventes numériques, c'est des centaines d'exemplaires. Donc le rapport est ridicule. Je pense que des auteurs vont trouver des formes pour directement représenter de la BD en numérique, des objets conçus pour être lus en numérique. Alors il y a beaucoup de recherches, beaucoup de tentatives, mais pour le moment ça reste un peu de la recherche et j'ai rien vu d'hyper convaincant.
Il y a, c'est un petit peu plus facile maintenant, mais il y a quand même quand on commence des séries assez longues, la difficulté d'accrocher le lecteur. Et une série, on a aussi le même phénomène pour la télé, on peut n'accrocher qu'au bout du 3e, 4e album. Est-ce qu'il y a des moyens au niveau scénaristique pour faire en sorte qu'un premier soit, qu'on espère qu'il soit suffisamment efficace pour immédiatement accrocher un lectorat ?
Alors moi j'ai un secret pour ça, j'essaie de ne pas être chiant. Voilà. Il faut... Je réfléchis jamais en termes de je vais mettre ça dans le premier, ça dans le deuxième, ça dans le troisième. Je sais où je veux arriver, comme je le disais, au bout d'un cycle. Mais ma théorie, c'est mets tout et mets le maximum et fais le meilleur possible dès le premier. N'essaie pas de garder des bons éléments en disant ça, le bon élément, je le garde pour le 2. Non, je mets tout dans le 1. Et à moi de trouver encore mieux dans le 2 et puis encore mieux dans le 3. C'est un challenge permanent d'essayer de monter. Ça n'arrive pas toujours, évidemment, sur 170 albums. J'en ai des moins bons que d'autres. Pourtant, je les ai faits avec autant de sincérité, mais avec le recul, comme je disais, les deux premiers L'Enfeust Odyssée, aujourd'hui, je les regarde, je suis un peu déçu. Mais on s'est rattrapé sur la suite. Et non, il ne faut pas trop vouloir étaler. Il faut se méfier de ce piège qui est l'album d'introduction, de présentation, dans lequel il ne se passe pas grand-chose. Beaucoup d'auteurs commettent cette erreur. Moi, j'essaie de rentrer directement dans le vif du sujet, d'accrocher le lecteur tout de suite, de le faire rire le plus vite possible. Après, ça marche, ça ne marche pas. Des fois, ça ne marche pas. Il y a 3 ans, j'ai fait une série que j'aime beaucoup. Enfin, il y a eu 2 albums, du coup, c'était une série limitée. Que j'aimais beaucoup écrire, dont je suis assez fier du scénario, mais le public n'a pas été présent. Ça s'appelait Odysseus, une histoire de voyage dans le temps, un jeune médecin d'aujourd'hui qui se retrouve dans l'Antiquité. Et puis, ça n'a pas pris. Voilà. Donc, on a conclu l'histoire en 2 albums. Il arrive que, même quand on a un scénariste qui a des succès d'un côté, on peut faire des bides à côté. Mais ce qui est une bonne chose, ça signifie que ce n'est pas mon nom qui est vendeur. Ça signifie que c'est mes albums, mes créations, c'est les personnages qui sont vendeurs.
Oui. Tout à l'heure, vous disiez que on pouvait dire ta gueule à l'éditeur.
Une fois qu'on a commencé à vendre beaucoup de livres, parce que on ne vend pas beaucoup de livres, là, on se fait discret, on lui dit « Ah oui, monsieur, tu as raison, monsieur ».
Et alors, en tant que rédac-chef, par contre, de magazine, comment ça se passe ?
Alors ça, c'était évidemment un grand plaisir, qui est que toujours dans cette optique de, à partir du moment où on fait gagner de l'argent à son éditeur, on a beaucoup plus de liberté. Je suis rentré dans le bureau de Mourad Boudjelal un jour et je lui ai dit, écoute Mourad, je t'ai fait gagner pas mal d'argent, maintenant je vais essayer de t'en faire perdre un peu, on va faire un journal. Et lui a été emballé immédiatement, moi j'étais pas à l'idée de perdre de l'argent, à l'idée de faire un journal. Parce que lui, comme moi, étions des lecteurs de tous les journaux quand on était mômes, de Spirou, de Tintin, de Pilote, de Charlie, de Métal Hurlant, de Fluide. Et dans les années 80, énormément de ces journaux étaient morts. Et moi, j'avais cette formation de journaliste qui faisait que je savais comment on fait un journal, comment on fait un chemin de fer, comment on écrit les papiers, comment tout ça se gérait. Je savais que ce n'était pas si compliqué. Et la structure du studio Godferdom auquel on travaillait à Aix, où on travaille toujours d'ailleurs, qui est un atelier d'auteur en réalité, nous donnait matière pour alimenter ce journal et lui donner une âme. Parce que ce qui est important dans un journal, c'est qu'il ait une âme. Que ça ne soit pas juste des pages mises bout à bout. Et moi, quand j'étais gamin, je sentais cette âme dans Spirou grâce à Delporte, qui faisait des tas de petites animations, qui faisait les en direct de la rédaction et toutes ces choses-là. Et avec le studio Godfardom, avec la première génération, quand le mag s'est monté, c'était Olivier Dutot, Guillaume Bianco, qui étaient des anciens élèves de Tarquin, qui avaient 20 ans, et qui faisaient des petits gags, qui faisaient toutes les animations. Ça a été vraiment un grand plaisir de monter le journal tout de suite, et c'est toujours un plaisir de le continuer aujourd'hui. Il évolue parce que les temps évoluent. Le journal vient de fêter son numéro 200, donc évidemment, on a beaucoup plus de rédactionnel maintenant. On a trouvé des chroniqueurs formidables, un peu décalés, qui sont vraiment dans l'esprit un peu blogueurs, mais blogueurs papier. Et je crois qu'on a toujours un bon journal qui a toujours une belle énergie.
Ça prend beaucoup de temps quand même.
C'est 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Bon, j'ai une assistante qui est en même temps la secrétaire de rédaction du journal qui gère ça avec moi. Et j'ai un co-rédacteur en chef, Dominique Latil, qui est aussi scénariste par ailleurs. On a tous plein de casquettes là dans le studio. Mais ça ne prend pas tant de temps que ça. Bout à bout, ça me prend 2-3 journées dans le mois.
Et pour terminer, avant quelques questions du public, donc le roman chez ActuSF.
Ça, c'est ma récré, un grand, grand plaisir. Il a fallu que j'attende plus de 170 albums pour écrire mon premier roman. Mais alors, c'est vrai que pour un premier roman, je ne me suis pas trop éloigné de là où on m'attend. J'ai fait de la fantaisie marrante. Mais par contre, il y a vraiment le plaisir de l'écriture. Le plaisir, là, je retrouve ma formation de journaliste avec, je me souviens de ces profs qui me tapaient sur le bout des doigts dès qu'on écrivait un adverbe. Et vraiment... J'ai toujours gardé ce plaisir de sculpter les phrases hein, dans les textes, dans les bulles, dans les dialogues. On doit être le plus précis et le plus concis possible, déjà pour ne pas occuper trop de surface dans une bande dessinée. Là, dans un roman, mine de rien, on doit aussi faire attention à son style, à ne pas noyer l'écriture. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir formel à le travailler, beaucoup de plaisir à raconter cette histoire assez loufoque d'une jeune espionne qui est la dernière survivante de tous les espions d'une grande cité. Donc, et on lui demande de trouver qui introduit dans la ville de la nourriture frelatée, un blé dévoyé par magie, et dont le destin va croiser celui d'un jeune cuisinier absolument génial qui lui arrive à faire de la magie à travers la cuisine, tellement c'est un génie. Donc c'est assez loufoque, mais avec une bonne intrigue polar derrière et une bonne ambiance de fantasy. Donc j'ai réuni vraiment là-dedans tout ce que j'aime. Et j'en suis très fier. C'est assez rigolo parce que en bande dessinée, voilà, je sors 4-5 albums tous les ans. Et là, pour la sortie du roman, je suis tout impressionné, comme si je suis un jeune auteur de roman. Et j'ai eu le trac pour la première fois depuis 20 ans à la sortie du bouquin. Et c'est une sensation merveilleuse. Et le fait d'écrire sans le filtre du dessinateur, d'être en prise directe avec le cerveau du lecteur pour une fois, parce que le dessinateur est toujours un interprète. De ce qu'on a en tête, là c'est vraiment un exercice plaisant et je vais certainement continuer. Alors la bande dessinée reste mon métier, reste mon cœur de métier, mais je suis en train de calculer déjà comment prendre de l'avance sur certains albums pour me garder quelques mois pour écrire un autre roman.
Y a-t-il des questions ?
Parenthèse d'ailleurs à propos du roman, voilà, quand le truc est terminé, avant de filer prendre mon avion, je signe une petite demi-heure juste là derrière au stand ActuSF. Voilà, pub pour eux.
Au final, avec l'enfossement, vous perdez combien d'argent ?
Au final, on n'arrive pas trop à en perdre, mais je fais en sorte que l'éditeur n'en gagne jamais. Puisque à chaque fois qu'il y a un petit peu de sous dans la caisse, j'essaie d'augmenter les jeunes auteurs, d'augmenter le nombre de pages, de mieux payer les chroniqueurs. Dans un journal, de toute façon, c'est pas très rentable de nos jours. C'est rentable dans le sens où pour l'éditeur, il y retrouve de l'image. Et en même temps, le journal sert de pépinière pour faire sortir des nouveaux auteurs. Et beaucoup de jeunes auteurs d'aujourd'hui ont fait leurs premières armes dans le journal. C'est très difficile de faire ses premières armes sur un premier album directement. Sortir 44 pages, quand un jeune dessinateur commence, il arrive à la page 30, il a déjà envie de redessiner les 10 premières parce qu'elles lui sortent par les yeux. Donc le journal permet de sortir des histoires complètes, d'évoluer, de faire maturer des auteurs. Et ça rentre en ligne de compte chez l'éditeur. Après, bah, la situation du journal, aujourd'hui, elle est comme celle de tous les journaux, de toute la presse, c'est-à-dire que le nombre de points de vente et de kiosques se réduisant, on est obligé de s'appuyer de plus en plus sur les abonnés. Heureusement, on a un bon socle d'abonnés, solide, et qu'on est en train de faire augmenter parce qu'on fait des campagnes. Parce que quand on a lancé le journal, il y avait 45 000 kiosques en France, 45 000 marchands de journaux. Aujourd'hui, il y en a 14 000. Voilà. Et il suffit de donner ce chiffre pour comprendre que la presse papier, quelque part, est condamnée à moyen terme, à part via l'abonnement, et que de toute façon, à un moment donné, sinon, il faudra trouver une formule numérique, mais trouver un modèle économique numérique, et là, c'est complètement un autre débat, on en aurait pour deux heures.
Dans le souper des maléfices, donc, que j'ai beaucoup aimé par ailleurs, merci. On retrouve des liens comme le vin de Vlostop, le pollen d'armoise, les ogres qui font penser un peu aux trolls. À quel point Troyes a influé le roman, ou inversement, à quel point le roman s'inscrit dans le monde de Troyes par certains aspects ?
Le roman ne s'inscrit pas dans le monde de Troyes du tout, en réalité. Juste, je me suis amusé à mettre deux, trois petits clins d'œil, deux, trois références, parce que je savais que parmi les lecteurs du roman, il y aurait des lecteurs de l'Enfeust ou des trolls, et c'est vraiment juste des clins d'œil.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur la relation entre l'auteur et le dessinateur ? Est-ce que c'est toujours l'auteur qui a le pouvoir, qui domine la situation ? Ou est-ce que le dessinateur peut prendre la main sur son dessin ? Est-ce qu'il a envie de prendre le pouvoir aussi ? Est-ce qu'il y arrive entre vous deux, votre relation de couple ?
Alors, mais justement, c'est comme tous les couples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux situations identiques. Alors moi, je suis un scénariste assez interventionniste, assez dictatorial, mais je tombe des fois sur de très fortes personnalités, chez les dessinateurs aussi, mais on essaie de fonctionner en symbiose, et comme je le disais tout à l'heure, de beaucoup discuter en amont avant que je commence à écrire. Et il arrive qu'un dessinateur, quand il reçoit les pages de la séquence, me dise « Ah, là, tel truc, je le sens pas, donc hop, je réécris la séquence ». Et après, moi, je vois arriver le crayonné, c'est à moi de dire « Ah, tel truc, je le sens pas, refais-le sous un autre angle ». On est en dialogue permanent. Je crois que l'important, comme dans tous les couples, c'est le dialogue permanent. Mais ça, c'est ma façon de fonctionner. Je sais qu'il y a d'autres scénaristes qui s'enferment chez eux pendant deux mois. Ils vont tomber leur album de la première à la dernière ligne. C'est le cas de Jean Van Damme, par exemple. Jean écrivait, et maintenant il a arrêté, mais son Torgal, ou son 13, en entier. Il envoyait le scénario par la poste au dessinateur, et il regardait l'album imprimé par la suite. Et il ne se mêlait pas du tout du travail du dessinateur. Donc c'est vraiment des modes de fonctionnement différents. Moi, j'aime être impliqué, j'aime avoir les mains dans le cambouis avec le dessinateur, et j'écoute quand même leurs envies, parce que je sais qu'un dessinateur travaillera bien si on lui laisse de la liberté et s'il peut s'impliquer. Je ne voudrais pas d'un dessinateur qui soit un simple exécutant. Ça m'arrive d'ailleurs une fois ou deux, on n'est pas allé loin et je n'ai pas continué la collaboration. Et par contre, des fois, je suis tombé sur des dessinateurs. Alors, c'est un grand ami que j'aime beaucoup, qui en plus est un monsieur que je respecte parce que je lisais ce qu'il faisait quand j'étais tout petit, qui s'appelle Danny. Danny, très très grand dessinateur belge, mais une fois, je lui livre 11 pages de scénario, je livre par séquence, et il me renvoie 18 pages dessinées. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait là ? Oh, ben, j'ai rajouté une scène avec la fille qui se balade dans la ville parce que c'était sympa, c'était beau à dessiner. Oui, mais t'as fait sauter une autre scène. Ah oui, la scène où elle jouait aux échecs à la taverne. Ben, elle sert à rien ta scène. Mais non, c'est un setup pour amener un truc dont j'ai besoin plus loin. Et voilà, bon, avec Dany, ça a été l'enfer. J'ai dû, à la fin, pour la première fois de ma vie, retravailler des textes pour mettre des textes sur une séquence que j'avais pas écrite. Ça reste mon meilleur ami, enfin un très bon ami, mais plus jamais je ne travaillerai avec lui. D'ailleurs, sur le deuxième tome, je l'ai un peu vexé, sur la page de garde, au lieu de mettre scénario Arleston, j'ai fait mettre d'après un scénario d'Arleston.
Une dernière question.
Bonjour, je me demandais comment vous choisissez vos dessinateurs. Est-ce que vous les choisissez ? Est-ce qu'il y a des dessinateurs qui viennent vers vous pour vous proposer des histoires ? Ou est-ce que vous avez déjà des scénarios de prêt que vous envoyez à certains dessinateurs ?
Alors non, j'ai J'ai pas de scénario de prêt. J'ai des vagues idées, mais pas du tout développées, qui traînent dans des fonds de fichiers. Et en fait, les dessinateurs, oui, certains viennent me voir, et souvent c'est juste des rencontres. J'ai vraiment besoin de connaître le dessinateur, qui est une relation humaine, qu'on devienne copain. Les trois quarts des dessinateurs avec qui je travaille, c'est des gens qui sont d'abord devenus des amis et qui, à un moment donné, on s'est dit « Ah bah tiens, allez, on va faire un truc ensemble ». Didier Tarquin, je le connaissais depuis 3 ans, il faisait une autre série qui s'appelait « Rock », qui ne marchait pas du tout. Jusqu'à ce qu'on se dise « Ah bah tiens, on va lancer un truc, on va faire l'Enfeust ». Enfin, j'ai vraiment besoin de la relation humaine avec le dessinateur. Quelque part, c'est comme pour faire un bébé, il vaut mieux se connaître un petit peu avant quand même.
Eh bien, merci pour être venu assister à la rencontre et bon appétit.
Merci.